Vous écoutez
RMC. RMC.
Comme je dis souvent, le football, c'est un éternel reprouvement.
Il faudrait pas que le doute s'accapare dans nos têtes.
C'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais à force de dire que si... Moi, en tout cas, avec des si, je coupe du bois.
Jusqu'à minuit,
c'est l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'after est là jusqu'à minuit, l'after qui continue avec vous en direct tous les soirs pendant cette période sans foot, vous le savez, uniquement sur RMC à la radio, l'after, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas. After en radio travail, vous avez maintenant l'habitude depuis près d'un mois. Daniel Riolo dans sa salle à manger. Daniel, bonsoir.
Salut les amis.
Pierre Ducrot toujours dans sa cuisine. Salut Pierre.
Bonsoir messieurs.
Et Jérôme Rantaine sur son canapé. Salut Jérôme.
Salut Gilbert, salut à tous.
Je précise que Julien Cazard nous rejoindra tout à l'heure à 23h40 pour le quiz. Attention, la suite du grand tournoi. Ce soir, le choc des huitièmes de finale. Riolo, ah. Paul Vecchio, notre réalisateur.
Ah. Oh là là, oh là là.
Et là, ça prend.
Ah là, il n'y a pas le droit à l'erreur. Hein.
Ah non. Ah, la pression est sur qui, là, finalement? Sur Daniel.
Oh, bah, sur Daniel. Oh, bah, bien qu'on connaisse le... Ouais, mais attention, hein, Polo, attention.
Non mais moi, oui, non, mais la pression est quand même sur Daniel. Il ne peut pas se permettre de perdre contre Polo.
Il n'y a aucun problème, hein, la pression, je la prends, je la mets dans mes pneus, dans mes bouteilles. Donc là, t'inquiète pas, je vis très bien avec la pression.
C'est Roger Federer contre un qualifié.
Tu la bois, la pression, toi.
Ouais, aucun problème. Tout ce que tu veux, je la mange, je la bois, je la mets où tu veux.
Tu m'as pas toujours dit ça, Daniel. Hein. Tu m'as souvent dit qu'au poker, au tennis, etc., c'est ce qui te coûtait souvent cher.
C'est
vrai ou pas vrai?
En fait, absolument, ça dépend des moments. Non mais ça dépend des moments. Alors ça c'est je sais pas comment expliquer.
Au tennis, ça s'appelle petit bras.
Non mais c'est pas tout le temps en fait.
Non mais pourquoi tu la sens pas tout le temps? Ouais, ça c'est autre chose, ouais.
C'est tout le temps. C'est en fait, je pense que c'est lié à ce qui peut se passer dans ta vie à côté. Je pense que c'est que ça, hein. Parce qu'il y a des moments
où t'es un winner ou t'es un loser.
Mais pas tout le temps, c'est pas un continu.
Bon,
il y en a qui peuvent l'être en continu tout
on
le
a,
temps.
Nous, on a deux heures, les gars, pour lui faire monter un peu la pression, hein, deux heures, 1h45, avant son choc de tout à l'heure. Alors que Paul Vecchio est lui tranquille à la maison, hein, décontracté. Voilà. Il révise. Alors, l'événement ce soir, c'est la Ligue de foot qui s'adapte aux décisions d'Emmanuel Macron. Vous avez suivi l'allocution donc du président tout à l'heure, du président de la République, hein, pas de la présidente de club, parce qu'on parle beaucoup de président ces temps-ci. vous savez que je vais vous expliquer ça, mais les présidents ont élaboré des pré-calendriers. On va en débattre ensemble au 32-16 dans quelques secondes. À 22h30, on débattra cette fois du communiqué du jour des groupes de supporters français qui refusent clairement la reprise du football à huis clos. Alors bon, bah là, le communiqué était avant qu'Emmanuel Macron dise qu'il n'y aurait pas d'événement jusqu'à mi-juillet avec du public. Hein, donc là, ils risquent de ne pas avoir le choix. Mais enfin, leur communiqué est très long et il y a beaucoup de choses à l'intérieur, donc on va le décrypter ensemble. Et puis à 23h, comme promis, un spécial Lyon avec Édouard G. qui a plein d'infos à nous donner sur le mercato, sur la future gouvernance éventuelle du club. Donc restez bien à l'écoute, supporters lyonnais, le 32-16 est ouvert dès maintenant pour participer à tout le débat. Et puis vous savez que c'est un jour particulier pour l'Olympique lyonnais, puisqu'on est le 13 avril. Et il s'est passé un truc, je vous laisse deviner quoi, il s'est passé un truc un 13 avril dans l'histoire de l'OL, un truc très important.
Mais dans l'histoire, genre à peu près quand?
Dans l'histoire 21e siècle.
Ah oui.
Ouais.
C'est quoi? C'est le rachat de Jean-Michel Aulas?
Non, non. Un truc sur le terrain. Je vous laisse chercher. On verra ça tout à l'heure. Et puis vous allez
le
voir.
Premier titre?
Non. C'est pas ça. Non. Tu te rends en avril, ça fait tôt quand même.
Ouais. Quoi que ça peut arriver.
Quoi que Lyon, quand ils dominaient, c'était pas impossible.
Non, ils ont pas fait si tôt, mais d'accord.
Bon, alors, vous le savez.
Bon, moi, j'ai cherché sur Internet, j'ai trouvé.
Dis-le. Alors.
13 avril 2005, Gilbert.
C'est ça.
Ah ouais. Ouais, j'aurais pas trouvé sans internet, hein, je te le dis.
C'est quoi alors?
Je sais pas. Apparemment, il y a Nilmar qui s'est croulé dans une surface face au PSV.
Oui.
Non mais toi t'as dit. Non mais tu l'as pas du tout vendu comme ça. Tu l'as pas. T'as pas parlé d'événements sportifs. Ah oh, non. Tu l'as pas vendu.
J'ai dit un événement de la vie de l'OL.
Alors, moi j'ai dit un match de Coupe d'Europe, mais j'étais loin de penser que j'étais bon.
Mais bon. Voilà, c'est il y a pile 15 ans, le pénalty de Nilmar. Il y avait bien pénalty, on va pas se mentir.
Ah oui, il y avait pénalty.
Il y a une photo là, effectivement.
Il n'a pas été sifflé, en tout cas. Hein. Quand c'est pas sifflé, c'est pas sifflé. Hein.
Ouais.
Allez, Nilmar, il va vite. Accroché.
Oh, pénalty.
Qu'est-ce qu'il dit, monsieur Nielsen? Il est sorti de but. Monsieur Nielsen qui était à 30 mètres dans l'action.
là là là. Alors on va revoir ça.
Il n'y a pas de doute.
On va revoir ça.
Mais oui, Monsieur Nielsen. Oh là 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 là.
On a oublié que la Ligue des Champions, ça pouvait être sur TF1.
Non, mais
quand
surtout
même.
Avec le célèbre Wop, pop, 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 pop.
Ah non, mais moi, Ligue des Champions sur TF1 le mercredi, c'est-à-dire pour le grand public, pour que tout le monde voit, c'est quelque chose qu'on a peut-être un peu oublié quand même. Mais ça a existé.
C'était bon, ça. C'était bon.
J'avais oublié, mais on se demande encore pourquoi le gardien va plonger complètement sur le côté de la surface.
J'ai regardé avec Jérôme Thomas attentivement. Non, mais il y a pénalty 2000 fois sur 2000.
C'est sûr. Il prend le pied.
Bref. Ouais, ouais. Bon, tout à l'heure, on reparlera de Lyon, mais de Lyon 2020, hein, pas de Lyon 2005. Bien sûr, après 23h. Allez, la Ligue 1, tout de suite, les scénarios, la reprise, le huis clos, les réunions de président. Évidemment, tous veulent que la Ligue reparte. Make Ligue 1 great again.
D'autres voudraient avoir un montant plus pour plus.
L'équipe de France et la Coupe de France.
Quand une porte est entrouverte, il reste à nous de l'entrouvrir grande ouverte.
To make America great again for all Americans.
Mais c'est un provocateur, on sait très bien.
On va aller le plus loin. Pourquoi pas vraiment plus loin.
Au revoir.
Voilà. Moi, ce que je préfère dans le jingle, c'est Nasser Al-Khelaifi. Mais après, chacun ses petites préférences. Emmanuel Macron, vous l'avez suivi, donc il y a 2 heures environ, a exprimé le fait qu'il n'y aurait pas en France de rassemblement de plus de 100 personnes d'ici à la mi-juillet. Donc, évidemment, cela
exclut. Au moins de ce côté-là, les choses sont claires.
Voilà, ça exclut donc une reprise du foot avec du monde dans les stades. Ça n'exclut pas une reprise du foot à huis clos. C'est important. Hein, voilà. Alors, il a parlé des festivals, il a parlé des événements culturels, des événements sportifs. Petite parenthèse, ça va poser un gros souci au Tour de France, par ailleurs. C'est pas notre sujet à nous, mais bon.
C'est une institution du sport français, quand même.
La dernière fois que le Tour de France n'a pas eu lieu, c'était pendant la guerre. Hein.
Ah, ils peuvent le décaler, non?
Ah, ils peuvent peut-être le décaler. Peut-être,
ils en parlent, le décaler au mois d'août.
Ouais. De mi-juillet
à mi-août. Si tu décales le Tour de France, tu pénales dans l'Atlantique, il faut faire gaffe.
Attends, autant des fois tu fais des blagues drôles. Autant là.
Attends, mais tu sais que je n'avais pas compris. Je me disais, je voyais pas en fait.
J'ai bien compris vu le silence que vous n'aviez pas compris. Ouais, ou alors vous trouviez ça foireux.
Ou alors que c'était nul.
Moi j'avais pas compris. Non, maintenant j'ai compris. Bon. Ouais.
Et c'est foireux.
Alors donc ça c'est une première chose. Maintenant sachez que les présidents de Ligue 1 qui se réunissent beaucoup ces derniers temps. D'ailleurs il y a une réunion demain après-midi. Hein. Demain après-midi prochaine réunion des présidents à 15h. Donc ils attendent avec attention, bien sûr, les annonces du soir. Et bien, ces présidents, juste avant le week-end, se sont réunis et ont élaboré des scénarios de reprise qu'on s'est procurés. On les a sous les yeux. Je les ai sous les yeux. Vous retrouvez tout sur rmcsport.fr. Hein. En fait, ils ont prévu deux calendriers déjà établis, hein, déjà, enfin, des principes de calendrier. Il y avait deux scénarios. Il y avait
une. Il devait avoir des billes, non, si quand ils ont élaboré les deux, parce que les deux tiennent un peu la route par rapport à ce qui a été annoncé.
Ouais, alors ils n'avaient pas vraiment de billes parce que déjà il y en a un qui est mort, puisqu'il y en a un qui évoquait une reprise de l'activité de l'entraînement le 4 mai. Bon, celui-là déjà il est foutu.
Oui, 4-11, oui. Voilà. Oui.
Donc celui-là, il est foutu. Alors, en fait, les deux scénarios sont les suivants. Le premier est une reprise de la Ligue 1 et de la Ligue 2 tout début juin, 2 et 3 juin. Voilà,
ça colle. Hein.
Avec étalement, donc des journées tranquillement, avec des journées à peu près tous les 3 jours, mais pas forcément, parce qu'en mettant la Coupe d'Europe au milieu. Hein, avec par exemple des huitièmes de finale retour de Coupe d'Europe mi-juin, et puis des quarts de finale début juillet, demi-finale fin juillet, finale.
Non, mais le calendrier, il est établi, Gilbert, cherche pas.
Non, il y en a deux. Attends.
Non, mais dans le deuxième, t'as des dates, t'as même les dates des finales éventuelles et tout. Ça colle.
Laisse-moi aller doucement pour que les gens comprennent bien. Donc, il y a un premier calendrier qui démarre tout début juin pour finir début août, et un deuxième calendrier qui démarrerait mi-juin. Avec un plat très ramassé et qui terminerait aussi fin août. Voilà, avec la Coupe d'Europe beaucoup plus décalée, en l'occurrence une Coupe d'Europe qui serait plus
au mois de
juillet et août.
On a compris que ce serait fin juillet août.
Ouais, même plus fin août que juillet. Hein.
Ouais. Mmh.
Et la Coupe d'Europe, ils partent sur quels critères pour la décalée?
Il faut qu'ils réfléchissent à la formule, mais il a été question des matchs sur comment dire, une sorte de play-off avec un seul sur un seul site, avec peut-être un seul match, s'ils font pas l'aller-retour, tu vois, un truc comme ça.
Exactement. Donc bon, tout ça évidemment reste. Bon, on vous en parle parce que ça, c'est ce qui se passe en coulisses à la Ligue. Donc en fait, on veut pas être démunis. Le jour où les décisions seront prises, on veut tout de suite pouvoir sortir un plan de bataille quoi, qui corresponde à la réalité. Donc c'est pour ça que tout ça est fait aussi de concert avec l'UEFA. Alors il y a une date importante à connaître, c'est que le 23 avril, donc dans quelques jours, l'UEFA va se réunir pour fixer une nouvelle fois des grandes tendances européennes. Donc la Ligue est aussi soumise à ça. Attendez Emmanuel Macron. Ce soir, il est soumise à ça. Et ce soir, il y a un autre scénario qui arrive, messieurs, qui est assez étonnant. Moi, j'hallucine un peu, mais enfin bon. En fait, la Ligue 1 et la Ligue 2 pourraient ne pas se jouer en 38 journées. Ça, c'est encore une autre hypothèse a été validée de manière tacite au bureau de la Ligue. En gros, c'est si on reprend vraiment trop tard et qu'on n'a pas le temps de terminer, si on ne peut pas jouer les 10 derniers matchs en moins de 30 jours, on n'irait pas au bout. En fait, tout ça, pourquoi ? Pour gratter des matchs et gratter les droits télé, en fait. Tout à fait clair.
Mais c'est absolument logique. Non, mais en tout cas, là, maintenant, dans la réflexion globale, on a...
qu'est-ce qui est logique en fait?
Un championnat qui
il y a rien de logique là-dedans, Daniel.
C'est pas ça que je voulais dire. Le logique, c'est de vouloir trouver des solutions, de vouloir que ça se termine d'une façon ou d'une autre. Et si c'est annoncé, même si ça peut paraître complètement effectivement assez ubuesque de dire on fait pas le championnat en entier, il y a la volonté au moins de proposer encore certains matchs. Et de toute façon, on a compris que, alors pour le coup, j'emploie le mot logique. Que la logique, elle est économique et qu'il en va de la survie de certains clubs, du personnel qui travaille dans les clubs, de ces choses-là.
Je ne comprends pas, tu proposes quel match en fait ? Tu t'enlèves quel match et tu proposes quel match ?
Attends, Pierre,
la solution intermédiaire.
Tu me demandes ça à moi. Moi, j'ai pas la solution. Moi, ce que je suis en train de te dire, que c'est logique de se mettre autour d'une table pour aujourd'hui dire si tu fais pas 38, t'en fais 35, s'il faut en enlever 3. L'important, c'est que tu te mettes d'accord avant. C'est que tu te mettes d'accord, par exemple, avant que ça reprenne et que tout le monde puisse partir sur un pied d'égalité. Mais de toute façon,
je vois pas l'intérêt dans tous les cas.
Mais c'est de jouer des matchs. Ouais, c'est de jouer. Jouer 38, t'en joues 35.
Non, mais j'ai du mal à croire que tu puisses ou ne pas tout jouer à ce moment-là. Ou tu joues rien, ou tu joues tout. Parce que c'est pas trois matchs, vous êtes d'accord, qui va faire la différence. C'est trois matchs, c'est une semaine.
Si les trois semaines, c'est une semaine. Si c'est deux semaines, ou si c'est. Peut-être que ce sera
trois matchs. Trois matchs, c'est une semaine, quoi.
Non, mais peut-être que ce sera pas trois. Je dis ça, moi, c'est de l'ordre de l'hypothèse. Là, on n'est pas du tout.
Non, mais la dernière alternative, Gilbert, de toute façon, elle rentre pas dans les clous par rapport à ce que le président vient de nous annoncer. Dire la plus logique, c'est ce que tu viens de dire, c'est le deuxième, je crois que c'est le deuxième qui débute début juin.
C'est le deuxième calendrier.
Là, ça me paraît, et tu finirais donc début août, c'est ça ?
C'est ça.
Fin juillet avec la finale.
C'est le truc idéal, quoi.
Ben là, la logique par rapport à ce qu'il nous a dit. Maintenant, celle-là, elle tient. Donc, ça sert à rien de partir dans des plans et dire on va retirer encore trois journées. Par rapport, là, ça tient pas. Ça, en espérant que le 11 mai, ils se tiennent à ce qu'il a dit le président et que les clubs puissent reprendre une préparation classique. En plus, si tu reprends début juin, ça te laisse quand même trois bonnes semaines pour te remettre en bonne condition avec ton groupe.
Je gratterais même plutôt de ce côté-là. Je donnerais 15 jours de préparation. De toute façon, tout le monde est par à égalité. Et s'il faut gratter une semaine, je la gratterais plutôt dans ce sens-là.
Oui, non, mais tu peux. Mais après, ça dépend, Daniel. Ça dépend aussi des dates pour les matchs européens.
Il y a un truc important quand même.
C'est vendredi, c'est ça, la réunion
Demain, à la Ligue, il y a une réunion déjà. Demain, il y a une réunion à la Ligue pour réagir à ce qu'a dit Emmanuel Macron ce soir. Et pour se réadapter. Et après, donc le 23, il y a réunion à l'UEFA. Attention, parce qu'il y a un truc très important dans ce que dit la Ligue, et la Ligue insiste beaucoup là-dessus en disant, sur la reprise et le protocole de reprise, les gens qui décideront, ce sont les médecins des clubs. C'est-à-dire que c'est les médecins des clubs qui vont dire, voilà, nous, on préconise ça, et surtout, on préconise tel temps de reprise. C'est-à-dire que si tous les médecins disent, pour nous, il faut un mois entre genre fin du confinement et début des matchs, ce sera un mois. Vous voyez ce que je veux dire ?
Alors, ce que j'ai eu comme info, Gilbert...
Des coups de pression, je sais pas, mais enfin c'est...
Maintenant qu'ils ont les infos, évidemment qu'ils vont se réunir à nouveau et qu'il va y avoir des décisions ou de prises. Maintenant, il y a sur la table des documents de travail. On peut élaborer et affiner le calendrier, on peut même fixer des dates.
Oui, Pierre.
Et moi, ce que j'ai eu comme comme information à ce sujet-là, c'est que les médecins et tout le protocole médical va surtout se pencher et être consulté pour les moyens de reprise, c'est-à-dire pour assurer la sécurité sanitaire des joueurs, etc.
Bien sûr.
Faire les moyens qui vont être mis en place, plus que sur la durée de préparation, etc. Qui sera à ça abandonné au prépa physique de chaque club.
Oui, oui.
Voilà.
Prépa physique, t'es d'accord, Pierre? Oui. Bon, on a connu, je veux dire, en 15 jours, 3 semaines, c'est bon. Hein,
bien sûr, mais surtout dans un contexte particulier comme ça, tu sais que ce sera pas l'idéal, mais tu feras avec.
Et je pense que les joueurs seront tous testés.
En plus,
si tu es précautionneux par rapport à la santé des joueurs, que tu fais jouer à huis clos, que les mecs sont sur le terrain et que tu sais que sur le terrain, tu as des mecs qui sont pas malades. Bon ben allez, faut y aller là.
Je ne redoute qu'une chose, messieurs, et si ça arrive, c'est qu'il y ait un seul joueur qui soit à un moment donné déclaré, parce que ça peut arriver, hein, t'as beau tester
et
avant, etc.
Du coup, se retrouve en quarantaine.
Alors toute l'équipe se trouve en quarantaine. Je pense que tous ceux qui ont joué ou qui ont côtoyé ce garçon-là les 15 jours, ils sont en quarantaine. Ceux qui doivent jouer après, tu peux pas les jouer. Enfin, il en suffit d'un et effectivement tout s'arrête à nouveau. J'ai l'impression moi.
Je précise par ailleurs parce qu'on me pose la question sur le hashtag RMC Live. Oui, on peut faire un match à huis clos à moins de 100 personnes. Non, mais c'est important de le préciser quand même.
Comment ça, je comprends pas.
Parce que c'est limité à 100 personnes.
Ouais, mais ça va être le personnel autour.
Oui,
tout là, ça.
Mais voilà, c'est ça. C'est que 100 personnes, en fait, bon, ça va vite. Hein. Parce qu'attends, tu prends les deux équipes déjà, les joueurs plus un peu de dirigeants ou quoi que ce soit. T'arrives déjà à 50-60 personnes.
Ouais, c'est ça. Ça va être le cas de figure du match PSG Dortmund. On va être dans ce cas de figure là.
Les techniciens télé, les caméramans, techniciens.
C'est ça.
Plus, je sais pas, un peu de force de l'ordre. T'arrives vite à 100, mais enfin, ça peut se faire à.
PSG Dortmund, Daniel, t'étais à beaucoup plus que 100.
C'est ce que je disais. Peut-être qu'on
devra limiter. Mais en tout cas, ce qui est intéressant dans tout ce qui a été dit aujourd'hui, c'est qu'il y a des hypothèses de travail. C'est que la Ligue avait anticipé avec cette histoire de différents calendriers. Là, il y en a un qui rentre dans les clous. Bon, je pense, perso, c'est une bonne nouvelle, mine de rien. C'est quand même une bonne nouvelle pour le football français, non?
Oui, c'est une bonne nouvelle, mais bon après ils ont je te dis pas qu'ils ont perdu leur temps à se réunir, à tout le monde parler les uns après les autres, hein, mais c'est ce qu'on disait depuis à peu près un mois, le début du confinement. Il fallait juste attendre que le président au bout d'un moment annonce des choses un peu plus concrètes par rapport à ce virus et que t'avais le temps de te réunir demain et de pondre un calendrier plutôt que le pondre avant que le président.
Oui, mais en ce moment ils s'ennuient un peu, Jérôme. Alors tant qu'à faire, ça les emmerdera pas de se réunir à nous.
Non,
et puis comme il leur faut 40 réunions pour se mettre d'accord, comme il se faut 40 réunions pour se mettre d'accord.
S'ils n'avaient rien prévu, messieurs, on aurait été les premiers à leur reprocher aussi.
Cela dit, je vais vous dire deux choses. Un, moi je trouve que c'est bien qu'ils se réunissent parce qu'au moins, pour une fois, on essaie de s'entendre et on essaie d'avoir une réflexion commune. Voilà. Et en plus de ça, je sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant tout se sait dans ces réunions. Et en fait, c'est comme des matchs. La dernière fois, il y a eu engueulade Olas Nasser El Khelaifi, Kio Nasser El Khelaifi. Que va-t-il se passer demain? Bientôt dans l'after,
La dernière fois, c'était même El Khelaifi qui met un savon à Olas, pour être précis, sur ce qui s'est passé.
Oui. Et puis non, mais en même temps, le père El Khelaifi, il était chaud apparemment là, parce qu'il est rentré dans la tronche de tout le monde. Donc on va voir demain. Qui va être chaud demain, tu vois. Bref. Dernier truc quand même. Moi, cette histoire de championnat qui pourrait pas se jouer en 38 journées. Alors, ok, je comprends les arguments financiers. Enfin, sur le plan sportif, ça va poser 1000 problèmes.
Oui, mais moi, ils vont tout tenter. Mais maintenant, ils vont tout tenter puisque ça rentre dans les clous, là. Donc.
Voilà. Alors par ailleurs, pour finir sur ce sujet, non, j'ai fini. À moins que vous voulez rajouter quelque chose, vous avez tout dit.
Est-ce que j'ai dit que c'était plutôt une bonne nouvelle? Oui, je l'ai dit. Le redis. C'est plutôt une bonne nouvelle.
Très bien. Voilà. J'ai pris ça comme tel.
Quand il a dit 11 mai, j'ai imaginé immédiatement les deux semaines pour reprendre championnat juin, les deux matchs par semaine. Maintenant, l'UEFA par rapport à ça va voir comment placer son calendrier. Et puis bon, voilà.
Alors, il y a quand même un truc important que j'ai pas dit. C'est tout de même dans ces histoires de huis clos, il y a la maîtrise de l'extérieur du stade. Parce qu'évidemment, il est, pour les pouvoirs publics, impossible.
Ouais, il ne faut pas qu'il y ait des mecs qui viennent devant le stade.
Ouais, bien en mode PSG Dortmund. Voilà, bien donc sûr. ça pose aussi un problème de sécurité autour des stades. Oui, bon, alors, bon, a priori, oui. Je suis d'accord avec toi, Jérôme. J'espère.
Je pense qu'on n'est pas du tout dans la même configuration du match de Dortmund où on était au tout début de cette pandémie, du moins pas au tout début parce qu'il y avait déjà eu d'autres pays très touchés. Mais nous, en France, c'est là qu'on s'est rendu compte que, en effet, ça prenait une ampleur incroyable. Donc, je pense que si tu avais fait le match une semaine après, il n'y aura pas eu cette manifestation pendant le match, avant le match, au Parc des Princes.
C'était quand même une période où il y avait une incertitude totale, où tout le monde se trompait dans les prévisions, personne ne pouvait envisager, au gouvernement, à la Ligue, on parlait d'une reprise plus tôt, avril, on espérait des choses positives. Voilà, présentez-moi le mec qui avait réussi à voir comment ça pouvait se passer.
Il avait été autorisé par la préfecture, hein. Par ailleurs, erreur, mais ça avait été autorisé. Juste là, vous savez, il y a pour ces scénarios de reprise, à la Ligue, c'est comme ça, il y a des groupes de travail. Donc là, à chaque fois, on donne les compositions des groupes de travail. C'est important en ce moment. Il y avait le fameux groupe qui va voir Canal pour négocier, il y a le groupe qui s'occupe du social. Alors là, le groupe scénario de travail, je vais vous dire qu'il y a dedans. Il y a Caillot de Reims. Il y a Olvec, qui a beaucoup de groupes, hein, Olvec, hein, je constate.
Et Olvec, il taffe en ce moment. Ouais, hein. Il est à Monaco, sur la terrasse, il est tranquille, il a le temps.
Mais il veut se faire connaître.
Il y a Valdemar Kita, qui est là, dans ce groupe. Il y a Victoriano Melero, donc c'est le secrétaire général du PSG. Hein. Donc là, en l'occurrence, le PSG a délégué. Et il y a Laurent Nicolin, qui est là. Et il y a Vincent Ponceau, qui est le directeur général de l'OL. Arnaud Pouille, qui est le directeur général de Lens.
Le frère de Lucas.
Peut-être. Jean-François Soucas, qui est élu l'un des boss de Toulouse. Voilà. Il y a Marc Keller. Voilà.
Il y a quand même beaucoup de mecs qu'on connaît.
Il y a Philippe Diallo de l'UCPF, voilà, qui représente les clubs. Bon, il y a un peu de monde, quoi.
Diallo, Gustavo Frings, il y avait longtemps qu'on
avait. Il y a Pierre Repellini, notre ami.
Pierrot.
Une indignation, Pierrot.
Pas encore.
Enfin, Jérôme.
Oh, Jérôme, là, franchement, elle est limite, celle-là.
Non, c'est vrai, elle est petite. Elle est petite.
Oh, mais attends. Légende de la Saint-Etienne.
Je t'embrasse, Pierrot.
Voilà. Qui était avec toi dans l'équipe de France, c'était le représentant à l'époque.
Oui. Bon, du coup, avec tous les gens qui sont dans cette réunion, ça me fait un peu flipper. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle et si ça va accoucher de quelque chose de bien, là.
Compte sur Marc Keller. Ça va le faire.
Ouais. Bon, alors, s'il y a Marc Keller.
Avec Lucas Pouille et Jean Roucas,
là, ça va être compliqué.
On va arriver.
C'est où est-ce que tu as Jean Roucas?
Bah, je sais pas, t'as dit Roucas. Soucas, ouais.
Ah, bah, moi aussi, j'avais compris Jean Roucas. D'ailleurs, je me dis, on n'a plus de nouvelles de Jean Roucas.
Bah, si, il fait.
C'est n'importe quoi. Bon, dans quelques instants, on change de dossier, on parle des supporters.
Gilbert, je voulais rajouter, je sais pas si ça vous intéresse, mais je pense que ça intéresse une grande partie de nos auditeurs.
Oui.
Le Graet a aussi un peu parlé ce soir, et apparemment tous les championnats qui appartiennent à la Fédération Française de Football, donc les championnats amateurs et le national aussi, qui était un peu entre les deux, parce qu'il y a encore des équipes qui ont le statut professionnel, tout serait gelé, arrêté, avec un système de descente et de montée qu'ils vont mettre en place, mais tout serait arrêté.
Ah, ça, c'est très important ce que tu nous donnes comme info là.
Parce que ça concerne énormément de monde et puis énormément de clubs.
Il y a des milliers de footballeurs amateurs qui nous écoutent à tous les niveaux, que ce soit même les tout petits niveaux de district, au niveau régionaux et tout ça. Et pour l'instant, tout le monde est dans l'attente, quoi. Donc, et Noël Le Graët avait effectivement dit qu'il attendrait les mesures Macron là pour se positionner.
Exactement.
Bon,
il n'y avait pas beaucoup d'espoir pour que ça reprenne quand même.
Attendons l'officialisation, mais effectivement, je pense que c'est la tendance.
Ça paraît super compliqué à mettre en place, autant sur un ou deux championnats professionnels avec des moyens, ça paraît faisable. Dans la masse, comment tu veux faire.
Et on ne sait pas ce qu'il va mettre en place, en fait, Pierrot, là. On ne sait pas s'il gèle le championnat, je ne sais pas combien il restait de journées pour la plupart, mais bon, on devait être.
En gros, la 25e, 3/4. National, 25-26e.
Chez les amateurs, ça pose beaucoup de problèmes aussi de budget. Et vous savez qu'il y a des clubs, notamment de basket, qui ont d'ores et déjà dit nous, on repartira dans la division d'en dessous parce que de toute façon, il n'y a plus rien. Quoi. Donc,
même dans le championnat national, notre troisième division, tu as des clubs qui vont être sacrément en danger. Là. financièrement.
Bon, attendons là-dessus les déclarations de Le Graët, on aura l'occasion d'en reparler. Dans quelques instants, les supporters, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a un groupe de signataires très important, plus d'une cinquantaine de groupes de supporters, ultra et pas que, aussi des groupes qui ne sont pas des groupes d'ultra, qui ont signé une lettre commune. On va la décrypter dans quelques instants et on sera avec un membre de l'Association nationale des supporters pour en savoir plus. Évidemment, c'est important parce que dans toutes les réunions de la Ligue, a priori, il n'y a personne qui représente les tribunes. On en débat dans quelques instants dans l'after avec vous.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot. Gilbert Bribois.
Avec Jérôme Rotten, Pierre Ducrot et Daniel Riolo. Les tribunes françaises disent non à une reprise prématurée. Voilà le titre de la tribune du jour signée par une cinquantaine de groupes de supporters. On va en parler avec un des membres de l'ANS, l'Association nationale des supporters. Il s'appelle Gerbi. Bonsoir Gerbi.
Bonsoir, salut à tous.
Salut. Explique-nous d'abord, est-ce que c'est l'ANS qui a, organisé un peu, enfin fédéré un petit peu tout ça aujourd'hui ?
On va commencer par ça, effectivement. Moi, je représente l'un des groupes co-signataires de ce communiqué national. Mm-hmm. Et c'est une initiative qui a été prise en dehors du réseau de l'Association nationale des supporters. On a aujourd'hui une cinquantaine de groupes, Ligue 1, Ligue 2, voire même... national confondu. Donc c'est au-delà du rassemblement habituel des groupes au travers de l'ANS. Et puis voilà, je le précise parce que je me présente pas du coup avec la casquette du porte-parole de l'Association nationale des supporters, mais simplement avec la casquette d'un des groupes signataires pour vous expliquer un petit peu la démarche. Voilà.
C'est quoi ton groupe à toi ?
Moi, je fais partie du Red Kiao 1994, supporter du GF 38 en deuxième division. Et puis, nous, on est un groupe de supporters qui fait partie de l'ANS. Mais
c'est un groupe ultra, une fois,
c'est pas la question. Exactement, ouais, c'est ça.
D'accord. Alors, allons-y, parce que ce qu'on a retenu principalement, c'est le fait que dans cette tribune, les supporters, tous les groupes, donc, n'envisageaient pas une reprise à huis clos. Alors, là-dessus, malheureusement, est arrivée la déclaration d'Emmanuel Macron. Donc là, la reprise avec du monde, on comprend bien maintenant, Gerbi, que c'est foutu, hein.
Ouais, si tu veux, nous, notre communiqué, quand on le lit, il est clair, net et précis. Le mot d'ordre, c'est le suivant, c'est dire non à une reprise prématurée. Derrière la notion de reprise prématurée, évidemment, il y a le fait de ne pas reprendre des matchs de football avec des rencontres à huis clos, c'est-à-dire sans public. Voilà. Mais plus globalement, c'est une question de morale qui se pose à nous aujourd'hui. Moi, je suis toujours embêté avec, on parle de sport, de football, mais la situation en France... On vit une crise sanitaire sans précédent et je pense qu'il y a un temps pour tout et c'est ce qu'on dit dans notre communiqué. Aujourd'hui, on a vu au niveau national des querelles de dirigeants qui sont clairement indécentes. C'est pas du tout le moment de se poser la question si le football...
Ouais, mais tout ça, on l'a dit, tout ça, on l'a critiqué,
L'important...
Non, mais bien sûr, absolument. Mais l'idée, l'important, c'est que derrière ces disputes... On est d'accord avec vous, mais après, il faut... Si ça se termine par un accord, si les gens se mettent d'accord... En fait, je trouve que le communiqué dans son ensemble est vachement prématuré parce que il fallait attendre d'abord l'évolution un petit peu de la maladie, les propos du président, l'éventuelle fin du confinement pour peut-être prendre une décision.
Mais non, ah bien bon, sûr que non, Daniel, ce sera beaucoup trop tard à ce moment-là. Écoute, c'est pas nous qui avons une démarche prématurée. Aujourd'hui, ce qui est prématuré, c'est de discuter dans le fond et dans la forme, de savoir si le football français doit reprendre ses activités ou pas. Que ce soit pour faire une saison blanche qu'on annule et qu'on reparte sur le
terrain. Mais c'est pas à vous de le décider, ça, c'est aux autorités de le décider.
Attends, Daniel, laisse-moi terminer et laisse-moi m'expliquer. Oui, mais tu comprends pas, tu me coupes la parole, je peux pas t'expliquer, c'est normal que tu comprends pas.
Mais non, mais je l'ai lu le communiqué, cher ami, je sais lire encore. Votre communiqué, il est tellement...
Non, mais il y a plein de trucs intéressants dedans, moi, je trouve. Vas-y, Gerbi, continue.
Non, mais attendez, les gars, que ce soit bien clair. Moi, j'appelle pas pour faire la marionnette. C'est soit vous me laissez m'expliquer, soit...
Ah oui, mais toi, t'es comme tous les ultras. Tu veux juste parler et pas être contredit, en fait. À chaque fois qu'on en invite, les mecs, ils veulent juste parler. Ils veulent pas qu'on discute avec eux.
Laisse-le maintenant s'exprimer, Gerbi.
C'est incroyable. Les mecs, ils veulent jamais discuter.
Vas-y, Gerbi.
J'ai pas commencé à parler. Pas commencé à en placer une. On m'avait prévenu, mais c'est dingue, ça.
Oh. Vas-y, Gerbi. Petit accent de
Gerbi, tu t'habitues au fur et à mesure, tu sais. Tu trouves le rythme, t'inquiète pas.
Allez.
Maintenant, on laisse Gerbi s'exprimer. Vas-y.
Ouais, c'est important de faire passer ce message. De notre point de vue, après, on a le droit d'être d'accord ou pas d'accord, ça, c'est un autre débat. Ce qui nous a semblé prématuré, voire même indécent, c'est de calculer la reprise éventuelle du football français. Alors, on vit une crise sanitaire sans précédent. Et d'abord, on tenait à le préciser, parce que c'est important pour nous, qu'on est dans une logique de remerciement des gens qui ont repris le chemin du travail, qui sont là pour nous soigner, nous protéger, nous servir, nous transporter. Les soignants, mais les autres. Localement, c'est avec cette vision des choses qu'on a vu les groupes ultra mettre en place un certain nombre de cagnottes de solidarité en ligne qui ont ramené
beaucoup d'euros. D'initiatives.
Et pour améliorer le confort du personnel soignant au travail. Et je pense que la priorité, c'est de combattre ce virus. Et aujourd'hui, quand on entend certaines prises de parole des principaux dirigeants du football français, on se dit qu'on a un décalage entre ce qu'ils vivent eux et ce que nous, on vit en bas, ailleurs. Et donc, ce qu'on dit tout simplement, c'est qu'on est contre une reprise prématurée, c'est qu'on est contre une reprise à huis clos, et qu'à un moment donné, il faut faire preuve de morale, de lucidité, et d'un sens d'humanité, voilà, parce que c'est indécent de parler
une
de ça.
Une question très claire. Une question très claire. Je connais pas la situation précise de Grenoble ou de tous les clubs de Ligue 2, mais enfin, il y a certains clubs qui jouent très gros sur le plan financier sur cette fin de saison. C'est-à-dire qu'en fait, clairement, il y a des clubs qui vont jouer leur survie sur on reprend ou on reprend pas.
Exactement.
Donc ça veut dire que en tant que supporter, t'as envie que ton club il soit en bonne santé et qu'il continue. Donc là maintenant se pose la question suivante, se dire ok, moi je comprends l'argument de la morale et de se dire bon, c'est peut-être un peu indécent d'en parler tout, mais là on joue la survie de certains clubs. Donc quand on sait ça.
Mais Gilbert, permets-moi de te couper, c'est pas qu'une question morale, c'est aussi une question. Il faut qu'à un moment donné, sanitairement parlant et socialement parlant, les conditions soient réunies pour
reprendre.
C'est pas juste une question de belles paroles et de morale d'un supporter qui veut se la jouer sur RMC.
Mais les bonnes paroles, tu ne fais que ça dans ta soupe que tu nous sers depuis tout à l'heure.
D'accord. Alors moi maintenant, pour aller au fond, Gilbert, je vais te répondre.
Ouais, voilà, réponds-moi.
Peut-être à un moment on peut répondre ou comment ça se passe.
Non, mais là, je réponds à Gilbert.
Vas-y, sur l'argument économique.
D'accord, vas-y.
Aujourd'hui, on est sensible au fait qu'il y a des clubs qui sont dans une telle difficulté financière, c'est d'avoir un impact social sur ces clubs-là. Il y a des salariés, il y a du personnel. Aujourd'hui, la tendance de ce que moi j'en sais, encore une fois, je suis pas un spécialiste, on se rend compte que plus les clubs ont de l'argent, plus ils risquent gros. Donc le cas de Grenoble, il passe un petit peu à la trappe, c'est pas tant la situation des GF38 qui nous importe. Bien sûr qu'on est sensible à ça, mais aujourd'hui, on est quand même en droit de revendiquer un espèce de bon sens. Aujourd'hui, c'est ça qu'on est venu mettre en avant. Alors Daniel, tu peux penser que c'est une soupe, je vois pas ce que tu aurais aimé qu'on dise d'autre, à part ça. Et aujourd'hui, quand on entend certains dirigeants... calculer une espèce de reprise avec des matchs tous les trois jours, une modification totale du calendrier où on va carrément perdre la notion du football le week-end, où on aura des matchs à huis clos, c'est certainement pas une direction qui aujourd'hui nous satisfait en tant que supporters, ça quand même on peut l'entendre.
Je peux répondre ou pas,
Daniel? Et ensuite j'aimerais aussi que Jérôme et Pierre puissent également donner leur point de vue, bien sûr.
Alors, on évacue toutes les magnifiques activités que beaucoup de groupes ultra ont fait. C'est très bien.
On leur dit bravo,
pour cette chose-là. Ça c'est normal. Aujourd'hui, quand t'es dans une situation de péril comme celle qu'on vit, y a des décisions qu'il faut prendre. En gros, il faut trancher. Si tu as plein de gens qui peuvent être au chômage, si tu as des clubs qui peuvent risquer pour leur santé financière, d'un côté de la balance, et si de l'autre tu as le fait de jouer à huis clos, de reprendre le championnat même dans des conditions précaires, dans des conditions qui plaisent à personne, pas plus à vous qu'aux gens qui ne sont pas des ultras mais qui adorent le foot et qui vont
au stade. Ultra, attention, dans les signataires.
Absolument, hein, mais il y a d'autres gens qui vont, les gens qui vont au stade, les gens qui vivent du foot, toute cette économie qui est quand même très importante, parce que quand on, moi je ne comprends pas qu'on distingue économie et social. L'un va avec l'autre parce que de l'économie dépend un tas d'emplois. Et qu'on essaye de distinguer au prix d'un discours... bon, alors, tu as dit qu'il n'était pas fondamentalement moralisateur. Bon, ok, très bien. Mais à un moment, t'es obligé de prendre une décision. T'en as pas d'autre, en fait. T'es obligé de reprendre. Si tu ne reprends pas, tu mets tout en péril. Et dire le foot est plus qu'un spectacle télévisuel. Mais si tu regardes le budget d'un club de foot sans les droits télé... Eh ben, il est plus grand chose. Enfin, alors,
le foot est plus qu'un spectacle télévisuel.
Oui, ça, c'est sûr.
Il se trouve qu'aujourd'hui, sa vie avec ça.
Mais tu as raison, aujourd'hui. Eux aussi ont raison, les supporters, quand ils disent ça. Tout le monde a raison, là. Tu vois, bon. Vas-y,
écoute, Gilbert, honnêtement, Gilbert, si tu, si c'est pour entendre ce genre de conneries, je vais arrêter de parler, je vais vous laisser parler, d'accord? Parce que si c'est pour dire, juste c'est plus qu'un spectacle télévisuel alors qu'on est en train de parler de ce qui fait.
Moi aussi je peux crier pour parler plus fort que tout le monde.
Bon vas-y, allez.
Le foot ça se passe aussi.
C'est bon.
Le foot ça se passe aussi.
Serre la soupe toi aussi. Voilà, allez c'est bon.
Je serre la soupe à personne. Le foot ça se passe aussi dans les tribunes. Tout le monde et toi le premier veut voir du foot avec des spectateurs. Là c'est pas possible. Voilà.
C'est quoi le choix quand tu dois trancher entre les deux? Qu'est-ce que tu fais?
Donc le jeu, c'est celui qui crie plus fort. Daniel, tu nous proposes deux solutions.
Mais t'es obligé de trancher, tu fais quoi?
Mais on est tous d'accord, en fait. Pourquoi tu...
Mais non, t'es pas tous d'accord. Lui, il n'est pas d'accord et toi non plus.
Mais bien sûr que si. Nous, on veut tous le foot avec les spectateurs et toi aussi. Mais là, on ne nous laisse pas le choix.
Et si tu peux pas, tu fais quoi? Eux, ils disent qu'il ne faut pas le faire. Eux, ils disent qu'il ne faut pas reprendre. Ils disent qu'il ne faut pas reprendre.
Mais attends, ils viennent t'expliquer quoi? Ils viennent t'expliquer là et qu'ils comprennent la situation des clubs et ils t'expliquent aussi qu'ils sont tout à fait lucides sur ce qu'il faut faire et ne pas faire. Maintenant, il est important que tout le monde puisse s'exprimer, donc j'aimerais que Jérôme et Pierre donnent eux aussi leur avis, et ensuite on reprendra le débat calmement, mon petit
Surtout
Pierrot.
Si tu fais les tests aux joueurs, si tu prends soin de tout le côté sanitaire, si tu fais tout... Je comprends pas. Je comprends pas.
Jérôme, est-ce que tu comprends déjà que les supporters prennent la parole et qu'ils prennent position?
Maintenant, on sort la brosse à cirage et on dit tous que c'est formidable.
Mais non, mais Daniel, attends, chacun a son point de vue. T'as ton point de vue, j'ai le mien, Gilbert a le sien et Pierre a le... Voilà, peut-être qu'on va pas être d'accord. Bien sûr, moi, je suis le premier à.
Vas-y, Jérôme, enchaîne.
Je suis le premier à soutenir les supporters parce que dans tous les cas, le football en a besoin et moi, je me mets dans la peau du joueur et bien sûr que faire des matchs à huis clos, ça a cassé la tête à tout le monde et moi le premier. Maintenant, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui il y a une situation de crise et c'est pour ça que je suis pas indécis par rapport à ce que les supporters ont écrit et ce que vous avez écrit parce qu'il y a plein de choses sensées dedans. Maintenant, aujourd'hui, la situation après le discours du président, elle est comme ça. C'est-à-dire qu'il y aura pas de supporters dans il y aura pas de monde dans les stades jusqu'à la fin de saison, que les clubs l'ont dit, alors peut-être maladroitement au départ, où il fallait absolument finir la saison, parce que ceci, parce que cela, et puis ils n'en avaient rien à faire de ce que représente un match de foot, comme quand des autorités, mais qui n'ont rien à voir avec la crise qu'on est en train de vivre, des autorités se permettent de fermer des stades et des tribunes à cause de jets fumigènes. Pour moi, ça, c'est incompréhensible. Voilà,
C'est juste le respect de la loi, Jérôme.
Non, il y a des choses, c'est trop facile.
J'aimerais que Pierre puisse s'exprimer aussi, chacun son tour.
Maintenant, aujourd'hui, vu la situation, et Daniel l'a redit, c'est vrai que économiquement parlant, il y a des clubs qui sont en grand danger et que s'il n'y a pas les droits télé, peut-être qu'à l'arrivée, ces clubs-là vont s'effondrer. Là-dessus, donc il faut éviter ça.
En fait, ce que vous avez fait, c'est que vous avez mis de la crème chantilly pour arriver à dire que de toute façon, on n'a pas le choix et qu'on est obligé d'y aller comme ça.
Daniel, il y a un truc qui me dérange.
Okay, très bien.
Pourquoi? Explique-moi pourquoi. Parce que
la soupe, ça m'emmerde. La soupe et l'hypocrisie, ça m'emmerde. Voilà. La démagogie, ça me saoule. J'y peux rien. Ça me fatigue.
La question que je vais poser très claire, c'est la suivante. Pourquoi est-ce que ça te dérange que des supporters s'expriment? Enfin, c'est quand même. Ils ont le droit de s'exprimer et de donner leur avis. Où est le problème?
Mais parce que le communiqué est un tissu d'ânerie, voilà.
Mais bien sûr que non, il y a plein de choses intéressantes.
Mais t'as le droit de le penser. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Et en plus, il y a plein de choses sur lesquelles
si on pense différemment de toi, on est des hypocrites.
Soirée après soirée, tu l'as pas lu ou quoi? Quand il parle de la cacophonie entre présidents, on en parle tous les soirs, ils sont d'accord avec nous. Quand il parle de l'absence de projet dans le foot, quand ils disent qu'on n'est pas capable de voir au-delà d'un exercice budgétaire, d'une fenêtre de transfert.
Mais c'est pas ça le sujet, on s'en fout de ça. C'est pas le sujet du jour, ça,
Daniel.
Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ça? C'est pas le sujet du jour, ça.
Daniel, excuse-moi, mais t'as pas compris. Tu es en train de servir à tous les grands du monde du foot, cette soupe, c'est toi qui la sers.
Mais je dénonce 10 fois plus que vous. Mais je ne fais que ça, dénoncer ce que vous dites.
Justement, il dénonce la même chose que toi, donc vous devriez vous rejoindre.
Mais ça n'est pas le sujet, ça n'est pas le sujet du moment. Si c'est pour dire les présidents travaillent mal, tout, c'est un autre moment. Là, c'est qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que oui ou non, tu reprends? Est-ce que oui ou non, tu as le choix? Qu'est-ce qui est important? Le moment n'est pas venu de faire de la petite morale. Voilà, c'est tout.
Pierre Ducrot.
C'est tout.
Ouais, moi je crois qu'il y a effectivement plein de choses qui sont très très intéressantes et avec lesquelles on est d'accord dans le communiqué des supporters.
Moi, hypocrite, je vais appeler ça des
supporters. Non, attends, mais qui sont malheureusement ou en tout cas qui auraient dû être essayés d'être appliqués dans un autre contexte, c'est-à-dire peut-être depuis très longtemps déjà, qui seront sûrement d'actualité quand tout ça sera terminé et j'espère au plus vite. Sauf que aujourd'hui, effectivement, dans le contexte actuel, on ne peut pas aller ou faire autrement que d'essayer de finir ces championnats. Parler effectivement de reprendre le championnat que quand les meilleures conditions sanitaires seront réunies pour les joueurs et les supporters, c'est pas possible de dire ça en ce moment. Les supporters et les joueurs aujourd'hui dans ce contexte-là ne peuvent pas avoir les mêmes conditions. Les joueurs, tu peux remplir des conditions sanitaires, voilà, pour les faire jouer, merci, à huis clos.
Merci.
Les supporters, c'est pas possible.
On est tous d'accord.
Et tu es dans un contexte
Je vais juste finir, Daniel,
et après tu reprendras. On parle énormément de ça. Moi, quand je parle de contexte, j'aurais bien aimé à ce moment-là que dans le football français et même ailleurs, parce qu'on n'est pas les seuls, même si c'est peut-être chez nous que c'est le pire quand on parle d'Italie, d'Allemagne, d'Angleterre et d'Espagne. Pourquoi les taux d'occupation des stades, les taux de remplissage des stades sont aussi minables en France, mis à part quelques clubs, ok, d'accord. Pourquoi à Bordeaux aujourd'hui il y a même pas 50% de taux de remplissage? Pourquoi à Toulouse il y a même pas 45% de taux de remplissage?
Ouais, oui.
Pourquoi je sais pas, à Montpellier il y a même pas 55%, je crois, de taux de remplissage? Pourtant il y avait tout le loisir pour tout le monde d'aller au stade. Donc c'est des problèmes qui, pour moi, doivent être vus effectivement pour le bien du football français dans un contexte
mais
normal.
Pas maintenant,
mais pas aujourd'hui. Mais pas aujourd'hui.
Voilà,
on ne peut
ça.
Pas. Bon, aujourd'hui, quand on demande beaucoup de solidarité.
Okay.
Et ben ça passe par là aussi, c'est se faire chier devant des matchs à huis clos juste pour la simple et bonne raison qu'il faut terminer les championnats.
Donc réponse, est-ce qu'il faut qu'on reprenne coûte que coûte parce qu'il en va de la santé financière de nos clubs une fois qu'on a pris soin qu'il n'y ait aucun danger sanitaire?
Gerbi, ta réponse,
ça c'est la question,
s'il te plaît.
Voilà. Moi j'aimerais savoir si ça correspond à ce que j'ai lu dans le communiqué.
Gerbi, s'il vous plaît, vas-y Gerbi.
Nous notre réponse elle est claire, c'est non, que ça pèse ou pas Daniel Riolo.
Donc on n'est pas d'accord les amis.
Mais je peux en placer une ou pas? Parce que franchement, les gars, je raccroche. Ce soir, j'avais l'occasion de parler soit France Bleu, soit RMC. Je vous ai soit juste vous. Mais si je peux pas en placer une, je raccroche. J'appelle à quelqu'un d'autre.
On fait plus d'audimat quand même que Radio France Isère. Ils sont sympas.
Ouais, au moins, ils me laissent parler. J'ai le temps de faire un débat de fond. Je partage les replays après. Écoute, les gars, je vais vous expliquer quelque chose. Aujourd'hui, on est en train de déraciner le football avec ce qui constitue le cœur du truc. Quand on parle d'humain, vous nous opposez économie, ligne budgétaire, et c'est pas concevable d'envisager les choses comme ça, d'accord? Quelque part, il y a un juste retour des choses. On se rend compte avec cette crise sanitaire que le football n'est rien sans sa dépendance directe avec les droits télé. Et nous, ce qu'on dit, c'est mettre de l'humain là-dedans. Alors, ça peut te paraître, Daniel, comme une soupe démagogique, mais moi, mon militant de
C'est surtout qu'on comprend rien, en fait.
Mon militantisme ultra, dans ma ville, dans ma localité, pour mon club, il est tout sauf dépendant d'une donnée économique. D'accord? C'est de l'humain, c'est du relationnel. D'accord. Donc aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est très simple, je ne vais pas le répéter 30 fois. Priorité à respecter des différentes phases, il y a un timing. On est en train de parler de la reprise du foot, il y en a, ils n'ont pas l'opportunité de refermer un cercueil. C'est ça la réalité des choses. Ça peut te paraître démago, mais c'est la vérité. Donc aujourd'hui,
c'est pareil pour tous les secteurs d'activité. On parle du foot parce que c'est un secteur d'activité aujourd'hui.
Et nous, on dit qu'on peut pas.
Tu peux pas dire ça.
Football, des supporters et de ce qu'il est au plus. Voilà, c'est-à-dire, c'est clair, c'est très simple. Il y a pas de solution.
Ne parlons plus de rien à ce moment-là.
Si ça vous fait envie, ce football qui enchaîne les matchs tous les trois jours dans des stades vides, parce qu'il faut.
Et c'est quoi le foot? C'est quoi le foot que t'aimerais?
Il faut qu'on fasse une pause.
Est-ce qu'on peut avoir une description du foot qu'il aimerait? Le foot avec 10 000 personnes dans le stade, mais simplement lui en priorité. Le foot avec 30 millions de budget dans tous les clubs. Déjà que le foot français ne rivalise pas au niveau européen, il serait quoi?
Ça se transforme en combat de coq, ça n'a aucun sens.
Nous, ça nous fait pas chier que ce système économique il se casse la gueule.
Ah ben voilà, on y est alors. Il suffisait de pousser un peu, on l'avait là, la connerie, elle est tombée, on s'en fout, le foot français, faut qu'il se casse la gueule, que tous les mecs qui bossent dans les clubs soient au chômage, que la télé ne diffuse plus les matchs, on y est.
Tu racontes.
Comment vit le football? Dis-moi comment va vivre le foot sans les droits télé. Vas-y, explique-moi.
On n'est pas dans une vision manichéenne des choses, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Arrête de m'expliquer ça. Aujourd'hui,
c'est moi un plan. C'est moi un plan économique du football.
Mais toi, mais moi, je suis pas économe. Mais arrête ton cinéma. Et explique-moi si toi cette vision des choses là, c'est quelque chose qui te plaît.
Allez, on arrête,
Jérémy. Tant mieux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus?
Jérémy, merci en tout cas d'être venu dans l'after ce soir. C'était enflammé. Hein. Je souhaite le meilleur au GF38, quoi qu'il se passe. Et je garde des souvenirs émus.
Je souhaite une bonne continuation. On va suivre ça de près. Mais,
et je garde des souvenirs émus du lycée Champollion. Salut Jérémy, à bientôt. bonne soirée.
Attends les gars, vous avez deux secondes ou pas?
Pourquoi?
Juste, je voudrais passer un dernier message. Je tire un peu la couverture à moi, mais c'est une journée un peu de deuil pour nous parce qu'on a un supporter du Red Star avec qui on est bien potes qui est décédé. Slim, il avait 42 ans. Il est décédé du Covid-19. Il y a quelques jours, je voulais faire une grosse bise à sa famille, à son entourage et dire qu'on pensait fort à lui. Voilà. Un grand merci.
Salut Jérémy, bonne soirée. Dans quelques instants, on continuera le débat avec le 32-16 qui est ouvert, bien sûr. Bougez pas, l'after revient tout de suite.
RMC. L'after foot. Gilbert Bribois.
Ils sont là, Pierre Ducrot, Daniel Riolo et Jérôme Rotten, suite à cette tribune des supporters. On a beaucoup d'appels au 32-16 du coup pour réagir à ça. Moi je crois qu'en fait ils veulent surtout qu'on les écoute un peu.
D'accord.
Bah, non, mais c'est important, Daniel. Pourquoi est-ce que
on dirait un babysitter.
Mais non, mais pourquoi est-ce que
ils ont des combats tout à fait louables et honorables dont on parle très souvent, mais qui sont là du coup hors contexte.
Non, mais attendez. Franchement, vous me faites rigoler. À aucun moment le mec n'est capable d'expliquer quel genre de foot il veut. À aucun moment les mecs sont capables de dire comment on fait vivre le football.
Toi-même, tu dis ça. Là, on parle de ce qui se passe là. Donc, ne lui reproche pas ce que tu veux pas qu'il fasse.
Non, mais attendez. Tu
lui dis c'est hors contexte de parler des guerres de président, de parler de la situation du foot et tout, et puis tu lui demandes de faire un plan quinquennal en mode soviétique sur ce qu'il faut faire. Non, tu peux pas lui demander ça alors que tu lui dis qu'il faut pas qu'il le fasse. Tu comprends? Je peux pas. C'est normal. C'est normal qu'il s'exprime, qu'il puisse le faire, dans l'aftercom. Ils font partie du foot, ces gens-là. C'est même important qu'ils soient là, non?
Il ne veut pas le même foot que toi. Est-ce que tu le comprends? Tu comprends que c'est de l'idéologie politique?
Mais Daniel, est-ce que ça les empêche? Moi, des gens qui veulent pas le même foot que moi, je veux pas les empêcher de venir au stade.
Et mais alors dans ces cas-là, moi, ce que je demande,
on se retrouve au stade. Il y a pas de problème.
Non, ce que je demande, moi, dans ces cas-là, parce que l'idéologie, c'est très bien.
On peut faire un tri idéologique pour l'entrée au stade.
J'ai le droit de te poser une question. L'idéologie, ça me va bien, mais qu'on m'explique. Quel genre de foot remplace le nôtre? Est-ce qu'on se replie sur nous-mêmes et on ferme les frontières? Est-ce qu'on continue d'échanger avec les autres footballs? Ou de toute façon, on arrête totalement d'être concurrent avec les autres parce que nos budgets n'ont plus l'argent des droits télé puisqu'on n'en a rien à cirer de jouer deux fois par semaine? Le truc, c'est que vous faites des bons sentiments sans se rendre compte que derrière l'idéologie, il y a un changement de paradigme. Moi, je suis pas contre. Mais alors, il faut l'expliquer et en prendre la mesure. C'est un tas de gens au chômage. C'est les clubs qui ne vivent plus. Les conséquences?
Mais je crois que tout le monde les comprend et que personne ne les souhaite, Daniel.
Je ne suis pas en accord avec ce qu'a dit Gerbi. Pourquoi tu me le dis pas?
Parce que tout n'est pas acheté et tout n'est pas concerné.
Le fond, Pierre.
Toi, tu t'arrêtes sur quelque chose, sur une chose.
Mais arrête, c'est la base.
Je vais dire.
La base du raisonnement, c'est le foot, les droits télé, les machins. Ah. Mais franchement, vous comprenez pas, ça me.
Daniel, on est d'une
époque. Dans votre volonté de...
Déjà, Daniel.
La démagogie, c'est un truc qui me fait vraiment.
Il n'y a pas de démagogie, chacun donne son point de vue.
J'ai beaucoup de mal.
Vas-y, Pierre.
Mais il n'y a pas de point de vue, est-ce que le point de vue, ce n'est pas le leur? Assumez de ne pas être d'accord avec eux.
Redescends.
On peut pas commencer une phrase. Si on peut la commencer, on peut pas la finir.
Vous n'assumez pas.
Vas-y, Pierre.
Mais si, on assume. C'est juste qu'on n'est pas aussi tranché que toi et parfois désolé mais d'être tranché c'est pas non plus aussi responsable que ça. On est d'une génération toi comme Jérôme ou comme moi où justement on a vu évoluer ce problème. Et moi j'ai été dans un club comme Jérôme au PSG où on a eu ce problème de lié justement au supporterisme. Je vais l'appeler comme ça. Je vais arrêter avec les ultras ou autre chose. Ouais. On a vu notre club changer radicalement à cause de ça. On peut pas être mieux placé. À un moment donné, moi je te le dis, j'ai joué dans un Parc des Princes où c'était beaucoup plus chaud et je kiffais ça. Sauf que ça a été trop loin. Et sauf qu'on, voilà, on va pas refaire tout le débat et ça a dû changer à cause de ça. Aujourd'hui, on est dans un foot qui tend à être, je parle plus du PSG, mais de manière générale et notamment dans d'autres pays que le nôtre, comme l'Angleterre aujourd'hui par exemple, ou même comme l'Allemagne, pas partout, mais dans certains clubs, où effectivement, t'as plus de vrais supporters, t'as plus de vraies ambiances. Et ça nous manque. Et ça, effectivement, c'est un combat louable que le foot redevienne un petit peu, en tout cas au stade, ça réappartienne à des supporters. Voilà, qu'on puisse enfin re-supporter son équipe un peu comme on en a envie quand même, et un peu comme nous sur le terrain on a kiffé. Je sais pas si Jérôme sera d'accord avec moi, mais ça, ouais, moi ouais, ça ouais, me manque bien. Quand je regarde des matchs de foot, et en même temps effectivement là où je te rejoins, c'est que le foot a évolué, que la situation économique de ce secteur là a évolué, et qu'on ne peut pas rester à la traîne par rapport à tous les autres. Donc il y a sûrement un compromis, je sais pas, peut-être que c'est pas possible, peut-être que t'as raison et qu'il faut que le foot français suive tout le reste pour survivre. Mais en tout cas on peut pas en vouloir à des gens qui sont dans les tribunes, qui passent leur semaine et leur mois et leur année à essayer de mettre de l'ambiance dans les tribunes, d'être parfois un petit peu excessif dans leurs propos en allant dans un sens pour essayer de se faire entendre.
Mais il faut noter ça. Ils s'en foutent de ton petit excessif, Pierre. Ils se foutent.
Mais bien sûr qu'ils s'en foutent. Mais comme toi, tu t'en fous de leur discours aussi.
C'est un changement de modèle. Et le changement de modèle, tu n'as plus d'emploi, Pierre Ducrot. Tu ne travailles plus, Pierre Ducrot. Est-ce que tu le comprends?
Est-ce que tu comprends ce que je te dire avant, moi? Est-ce que tu comprends ce que je viens de te dire avant? Je t'ai dit, justement, j'ai pris le soin d'essayer de t'expliquer calmement, là. Mais j'ai pris soin de t'expliquer calmement, Daniel, que je ne pensais pas comme certains peuvent le penser, supporters, qu'il faut effectivement que des stades pleins et rien à côté. Ouais, je suis pas en train de te dire ça. Je suis pas idiot. Je te dis que j'ai vu le football changer. On est une génération où le football a peut-être le plus changé en 20 ans. On le sait. Moi, j'y travaille tous les jours, comme toi. Et encore, j'y travaille avec toi, ce côté média. Et je suis agent de joueur. Donc, je vois l'autre côté. Je te dis pas qu'effectivement il faut tout changer. Je ne te dis pas ça, je te dis peut-être qu'il y a des justes milieux à trouver.
Moi, je crois qu'aucun supporter ne souhaite la mort de son club. Aucun supporter ne souhaite la mort de son club.
Bien sûr que non.
Voilà.
Donc, mais je crois que vous êtes complètement à côté de la plaque.
C'est ce que tu sous-entends, Daniel, là.
Non.
Tu sous-entends que les mecs, en fait, ils
s'en foutent de leur club, ils veulent être juste dans les tribunes.
Aucun supporter ne souhaite la mort de son club. Aucun supporter ne souhaite que des gens se retrouvent dans la mouise. Tous les supporters veulent que ça marche, que leur équipe gagne et prendre du plaisir au stade. C'est ça qu'ils veulent. Et ils veulent aussi qu'on les écoute. En fait, c'est ça le fond du truc.
Oui, qui ne comprenait pas le fond du truc. Vous avez posé une question claire.
On n'est pas d'accord avec
vous. Vous avez posé une question claire. La question, le débat à recentrer aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut terminer la saison, même dans des conditions extrêmes, qui est 2 journées par semaine à huis clos? Oui ou non? Eux disent non, ce qui entraîne une catastrophe.
Alors moi, je vais te dire ce que j'en pense de ta question, c'est que tu recentres le débat sur une question où tu veux un oui exactement. Ou un non, pour oublier tout le reste, parce que tu sais que t'as peut-être tort sur tout le reste. Voilà ce que j'en pense de ta question.
Et je te dirai
oui à ta question. Bien sûr qu'il faut changer les championnats. Ce qui ne veut pas dire que tu dois éluter tout le reste des problèmes que t'as qu'on t'a soulevé là.
Mais ça ne m'intéresse pas, parce que la question qui était posée,
c'est pas parce que ça t'intéresse pas que c'est pas quelque chose dont on peut débattre.
On fera un autre débat, si tu veux, un autre jour, sur ce que doivent être les tribunes, et je pense que toi qui dis que tu as vécu sur le terrain, moi j'ai vécu de l'autre côté. Donc moi, défendre le fait qu'ils viennent, j'ai aucun problème avec ça. Je l'ai dit 1000 fois. Ah. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a une extrémité et qu'il n'y a pas de nuance. L'extrémité aujourd'hui de certains mouvements ultra, pour pas dire la plupart, c'est de se foutre globalement de l'aspect financier. Aujourd'hui, la question centrale, et qui est répondue dans le communiqué, et lui-même a répondu, le fameux Gerbi, reprendre à huis clos dans des conditions que personne ne va aimer, mais pour la survie financière de tout le monde, eux, c'est non. Moi, c'est oui. Vous louvoyez. Je ne comprends pas de
quoi vous êtes. Reprendre le championnat, c'est oui. Daniel.
Eh ben alors, pourquoi vous lui avez pas dit?
Daniel.
Mais on le dit tous les jours, on lui a dit aussi. Les championnats, je lui ai dit, tu m'as pas écouté quand j'ai pris la parole pour donner mon opinion sur le truc.
Après,
j'ai donné mon avis comme quoi il fallait bien sûr aujourd'hui reprendre les championnats.
Allez, il faut qu'on s'arrête. J'insiste quand même sur un point.
C'est là que tu comprends pas.
Il est important que chacun puisse exprimer des arguments, même quand on n'est pas d'accord dans l'after. Quand Daniel n'est pas d'accord avec quelqu'un, il est important que Daniel, tu dois te battre pour que quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi puisse le dire. Voilà,
oui,
c'est ça la vérité.
Sauf que Gilbert, le problème, c'est que tu n'es
pas d'accord avec toi, puisse le dire.
Pareil,
pour Jérôme et pour moi.
Le problème, c'est que.
Il donne son point de vue, c'est le sien. On est d'accord ou on n'est pas d'accord. Il doit pouvoir l'exprimer. Voilà.
Le problème, c'est que quand je demande ensuite explique-moi quel genre de modèle tu veux si on ne termine pas la saison, si les clubs s'écroulent, si le foot dépendant des télés, c'est un problème. Sauf que tu lui demandes pas. Mais c'est ça la base de la discussion. La base de la discussion, c'est de lui demander de répondre.
La base de la discussion, c'est de laisser la parole à tout le monde et de ne pas couper la parole comme tu le fais. Et la base de la discussion,
ça n'est pas que chacun exprime son opinion, c'est qu'on se réponde.
Et de pas la faire en 40 minutes parce que sinon, on fait plus les mêmes émissions.
Mais moi, et si Gerbi vient, dans 3 heures, je lui demande son modèle. S'il exprime son modèle, je suis d'accord pour l'entendre. Sauf que tu ne veux pas qu'il exprime son modèle.
Celle des ultras très extrémistes ne représente certainement pas la masse des supporters qui composent les stades et aussi les supporters qui aiment le foot et qui ne sont pas tous les week-ends au stade.
Lyon,
je pense que la majorité des supporters sont d'accord avec moi. Ils veulent continuer à voir du foot et ils ne veulent pas voir le club s'écrouler. Ce sont les extrémistes.
Bien sûr.
Mais moi, les extrémistes, j'ai un petit peu de mal, pardonne-moi. J'ai un peu de mal avec l'extrémisme.
Dans quelques instants, je me battrai pour que les Lyonnais puissent donner leur avis sur leur club, parce qu'Edouard Jeune nous rejoint dans quelques instants. À tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot.